y a besoin d'un moratoire, il y a besoin de mettre en lumière à travers des affaires iconiques comme Pegasus, avec des associations comme Amnesty, des affaires qui permettraient à tout un chacun de réaliser l'ampleur du problème et surtout le danger que ça fait peser. Parce que le danger est infiniment plus grand encore que sur Pegasus.
Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice.
Salut.
Avec Damien Dohony. Salut Damien.
Bonjour à vous deux et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial puisque les éclaireurs du numérique s'inscrivent comme 299 autres podcasts francophones dans le podcaston qui, jusqu'au 31 mars, permet à 300 podcasts donc de présenter 300 associations ou ONG à découvrir et puis d'amener évidemment des appels de dons, pourquoi pas, pour aider ces associations et ONG. Et aujourd'hui, on a choisi vraiment d'aller vers une valeur sûre, ce qu'on considère comme une valeur sûre, en fait, en matière d'ONG, c'est-à-dire Amnesty International. L'idée est venue de Fabrice Eppelboin. Pourquoi, Fabrice ?
Alors, pourquoi ? Parce que, à titre personnel, j'ai croisé Amnesty à plusieurs reprises. Et puis, parce que Amnesty, c'est l'une des plus grosses marques en matière d'ONG. Tout le monde connaît Amnesty, tout le monde a une image d'Amnesty. Et c'est justement là qu'on va apporter notre grain de sel. C'est que cette image d'Amnesty, elle s'est généralement formée très jeune parce qu'on a vu un reportage, une information et aujourd'hui on voulait apporter un regard particulier, un focus particulier sur la dimension cyber d'Amnesty. Amnesty est très très pointue sur le cyber et depuis un bout de temps, ça a été révélé il y a peu de temps, mais c'est une des dimensions d'Amnesty qui est finalement très peu connue, essentiellement parce que la marque est tellement imposante que c'est très compliqué de la faire évoluer dans nos cerveaux.
Et oui, c'est une marque qui existe depuis plus de 60 ans, qui est financée intégralement par les dons. C'est un journaliste qui est à l'origine de ça, en Angleterre d'ailleurs. Le siège social est à Londres. Des millions d'adhérents dans 150 pays. C'est l'ONG de défense des droits de l'homme qui publie le fameux rapport Amnesty International chaque année, qui est chaque année de plus en plus glauque à lire finalement, puisque les choses ne vont pas en s'arrangeant en matière de droits de l'homme. Et ils ont reçu le prix Nobel de la paix en 1977. Est-ce que tu connaissais, toi, le côté tech d'Amnesty International, Damien, qu'on va découvrir là, vraiment ?
Alors, absolument pas. Et d'ailleurs, je suis très heureux de faire ce podcast parce que quand on a travaillé dessus pour le podcaston et qu'on s'est posé la question de quelle association ou ONG on pourrait mettre en avant et mettre en lumière, j'avoue, sur proposition de Fabrice, que je connaissais pas. Donc, bien sûr, on a travaillé, je suis allé regarder différentes choses. Et effectivement, non, je ne savais absolument pas, typiquement, qu'ils étaient, on va en parler, à l'origine de la révélation de Pegasus, dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast.
Le scandale Pegasus.
Mais pas que. Et vraiment, j'ai découvert qu'ils avaient un lab. Enfin, vraiment, je suis très sincèrement, agréablement, si je puis dire, avec des guillemets agréablement, surpris par cette dimension-là, parce que très souvent, dans les associations ou ONG que je qualifierais d'humanitaire, au sens qu'ils défendent les droits de l'homme et le droit de parole, on n'a pas forcément cette dimension tech, et c'est ça qu'on avait envie de vous faire découvrir aujourd'hui.
On va vous faire découvrir notamment l'existence du Security Lab, en fait, qui a été vraiment à l'origine, accompagnant en fait tout ce consortium international de journalistes lors de la révélation de Pegasus. C'était c'était en juillet 2021, donc il y a finalement même pas deux ans que c'est sorti en fait cette histoire-là. Et Security Lab de Amnesty International a joué un rôle clé, Fabrice.
Ah, Security Lab a été le cœur de l'investigation parce que forcément quand on s'intéresse à des choses comme Pegasus, il faut avant tout avoir une compréhension cyber de ce qui se passe, mais Amnesty justement a su entourer ce Security Lab de compétences juridiques, de compétences d'investigation plus traditionnelles en matière de journalisme, d'un réseau absolument incroyable de gens qui, aux quatre coins de la planète, sont confrontés à des choses comme Pegasus, ont l'expérience de terrain, ont déjà vu, parce que Pegasus n'est pas loin, sans faux, le premier logiciel de ce type. Hein, moi, la première expérience que j'ai faite, alors non pas en direct, heureusement, de ce type de logiciel, c'était en 2012. C'est un ami à moi qui avait identifié un logiciel équivalent, un peu plus primitif, de Hacking Team. Et c'était il y a 10 ans, et ça a été la première grande révélation de ce type de logiciel destiné à espionner des opposants politiques et des journalistes, l'ancêtre de Pegasus. Et à l'époque, c'était une révélation incroyable, mais la presse n'avait absolument pas retenu la leçon. Il y a eu plusieurs autres affaires, et là, ce qu'a réussi Amnesty avec, il faut le souligner, Forbidden Stories, ce consortium international de journalistes qu'on a retrouvé dans Story Killer, cette psyops israélienne qui faisait de la désinformation, c'est de faire de Pegasus un symbole. un symbole absolu de ce qu'il ne faut pas faire. Au point que les Américains ont passé des lois très récemment pour interdire le commerce avec des entreprises telles que Pegasus. Et ça, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. Et c'est pas un exploit qui aurait pu être fait par le Security Labs. Le Security Labs, il y en a d'autres de Security Labs du niveau d'Amnesty. Je pense au Citizen Lab au Canada. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Mais pour que ça devienne une affaire internationale, il fallait un amoncellement de compétences juridiques, investigations, lobbying, relations avec le politique, militantisme sur place que seul Amnesty était capable de mettre en place. Et ça a été brillamment mené.
Damien, tu as quelques chiffres d'ailleurs sur ce qu'a révélé Pegasus.
Oui, alors Pegasus, pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas écouté nos podcasts précédents ou qui ont peut-être vaguement entendu parler de cette histoire, on va quand même se remettre un peu en tête les choses. Pegasus, donc, c'est un logiciel espion qui est édité par l'entreprise israélienne NSO Group. C'est un logiciel qui est, on va dire, qu'on peut trouver ou qui a été trouvé dans pas mal de téléphones de gouvernants et de journalistes. Alors en gros, ça donne quoi? Ça donne 50 000 numéros de téléphone qui ont été fuités, potentiellement ciblés par Pegasus entre 2016-2021. C'est 180 journalistes de 20 pays qui ont été désignés comme cibles potentielles de Pegasus. C'est 14 chefs d'État et plus de 600 responsables politiques dans 34 pays désignés comme cibles potentielles à nouveau de Pegasus. C'est un scandale énorme, parce que là, c'est pas seulement les journalistes qui sont ciblés, mais c'est aussi des politiques qui sont ciblés. Et effectivement, comme tu le disais, Fabrice, ça a été révélé notamment avec le travail avec Forbidden Stories. Forbidden Stories, pour le rappeler aussi, c'est un consortium de journalistes de 17 médias dans 17 pays, 80 journalistes qui ont notamment travaillé donc avec le Security Lab et qui ont réussi à faire sortir cette affaire-là, qui est assez, assez folle quand on y pense, et qui est vraiment...
Le Monde en France, par exemple, a fait partie.
Oui, tout à fait.
Oh, le Monde, Éric Zemmour, mais le plus beau en France, c'est quand même le téléphone d'Emmanuel Macron qui a été ciblé par Pegasus. Alors, on sait à ce stade, en l'état des investigations, et elles sont assez concluantes, que c'est les services marocains qui sont à l'origine de l'espionnage d'Emmanuel Macron, et on ose imaginer le rapport de force qu'il en joint. Déjà que le rapport entre le Maroc et la France est très très compliqué par les temps qui courent. Là, on a des services marocains qui connaissent toutes les conversations personnelles de Macron, l'intégralité de ses échanges avec une multitude de gens. On sait que c'est un fanatique d'aller demander son avis à un peu tout le monde sur WhatsApp ou Telegram. Tout ça, c'est dans les mains d'un service secret étranger. On ose imaginer ce qui pourrait se passer en termes de négociations sous main et de chantage, n'ayons pas peur des mots.
Ce Security Lab, il est en partie à Berlin, je crois, hein, mais un peu partout. Mais il y a un centre de ça ou pas ?
Oui, Berlin, c'est la capitale des hackers, c'est un peu logique. C'est un endroit qui est à la fois sympathique, bourré de gens qui sont issus du monde de la technique, dans lequel les hackers et le monde de la cybersécurité ont un statut social qui est très, très, très enviable, des rémunérations qui sont également très, très, très enviables. Mais c'est surtout le statut social qui choque à Berlin. Ça, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut connaître à Paris.
Toi, ça te fait kiffer, ça, d'aller en boîte et d'être reconnu comme quelqu'un qui est dans le monde du hacking.
Écoute, honnêtement, j'ai connu ça dans deux endroits dans le monde, à Tunis et à Berlin. Et c'est probablement les deux seuls endroits dans le monde dans lesquels ça existe. Enfin, je dois en oublier quelques-uns, mais c'est vraiment anormal.
Il faut que je pense à imprimer un t-shirt « I'm a hacker ». Mais ce qui est très intéressant dans l'histoire du Security Lab et de ce qu'on décrit, en reprenant l'exemple de Pegasus, ce qui est intéressant, c'est de voir le travail de concert qu'il y a eu avec les journalistes, puisqu'on crache souvent, pas nous, mais en général, les journalistes sont énormément décrits. Nous aussi, des fois, un peu, ça arrive. Mais il y en a aussi qui font bien leur travail. Et là, dans ce cas-là, c'est assez remarquable. Entre donc, le travail qui avait été mené par le consortium de journalistes et donc Forbidden Stories et le Security Lab, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes... Enfin, il y avait 50 000 numéros de téléphone qui avaient été récupérés. L'objectif, c'était de trouver l'identité qu'il y avait derrière. Et c'est ensuite, avec les technologies de pointe, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ce podcast du Security Lab, qu'il y a eu confirmation, recroisement de sources et confirmation des personnes qui étaient derrière pour pouvoir ensuite assumer le fait, enfin tout au moins valider le fait que, typiquement comme tu disais, Emmanuel Macron ou d'autres politiques ou autres journalistes avaient été ciblés par ce logiciel et donc de l'intelligence étrangère.
Je voulais juste citer une étude de Via Voice qui a été réalisée pour les Assises internationales du journalisme de Tours du 27 mars au 1er avril, réalisé en ligne. En règle générale, diriez-vous que le journalisme est un métier utile ? 84% des gens disent « ok ». ça fait 84%. Mais le problème, c'est qu'en fait, en un an, il y a eu moins 6 points. C'est-à-dire qu'on était à 10% de gens qui pensaient que ce n'était pas utile en 2022. On est à 16% de gens qui pensent que le journalisme n'est pas un métier utile. Je place ça juste au milieu. Voilà.
Alors après, il faut quand même nuancer par le fait qu'il y a une grosse confusion entre journalistes et journalistes d'investigation. Ceux dont on parle là, de Forbidden Story, c'est des journalistes d'investigation. Ça n'a absolument aucun rapport.
Oui, mais je pense que la plupart des gens ne font plus la différence du tout, puisque de toute façon, ils n'ont pas affaire à des journalistes d'investigation tous les 4 matins sur les médias traditionnels, en fait.
Non, c'est assez rare. Hein. C'est une petite minorité au sein de la cohorte des journalistes. Les journalistes d'investigation, c'est vraiment, il n'y a pas grand monde. Il y en a quelques centaines en France à tout casser. Et c'est sûr que par rapport à la cohorte de journalistes qui, grosso modo, font de la communication, ils prennent des communiqués de presse, ils transforment ça en quelque chose qui est de l'information à consommer. Ça n'a rien à voir. Et il conviendrait quand même de distinguer les deux. C'est vraiment important. Et dans le cas d'Amnesty, très clairement, ils travaillent avec des journalistes d'investigation. Et en plus, avec des consortiums. Les consortiums qu'on a commencé à voir apparaître depuis 6 ou 7 ans de journalistes d'investigation, c'est des gens à qui, bah, notamment les hackers, vont pouvoir confier des gigantesques sommes de données qui ont été récupérées, piratées, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais finalement, ce n'est pas très important. Et ensuite, les filer à tellement de journalistes que même s'il y avait des conflits d'intérêts, des problèmes, quoi que ce soit, ils sont tellement nombreux, venant de tellement de pays différents, que tout ça va s'annuler et que ça va aller de l'avant. Et c'est une méthodologie d'investigation qui, aujourd'hui, fait ses preuves de jour en jour.
Savoir qu'en octobre 2022, Amnesty International a lancé une pétition pour demander un moratoire immédiat sur les technologies de surveillance, qu'elle qualifie d'illégales et endémiques, des militants politiques, des journalistes, des avocats et des responsables politiques. 100 000 signatures. Les logiciels espions en question, c'est Pegasus évidemment, c'est aussi Predator par exemple et d'autres. Et cette pétition, donc, tout d'un coup, n'a pas encore été suivie d'effet. Il n'y a pas eu de moratoire sur les logiciels espions à ma connaissance.
Non, et puis plus généralement, il y a aussi une tendance de fond qui pousse à réguler, alors c'est un peu technique, le commerce de 0D. Le 0D, c'est une faille informatique qui est secrète, que personne ne connaît, ou presque, et qui n'est pas référencée, et qui peut être instrumentalisée, typiquement pour faire de la surveillance, mais aussi pour plein d'autres choses. Et ça, c'est un commerce qui est le pur Far West. C'est catastrophique, ça met tout le monde, absolument tout le monde en insécurité, hein. Et pas que les journalistes, les militants, et y compris les gens qui sont tranquillement installés sur leur canapé. C'est super dangereux de voir ce commerce des armes, parce qu'il s'agit d'armes, partir dans des directions complètement folles, avec la complicité d'une multitude d'États qui en font commerce, parce qu'ils sont déjà installés dans le commerce des armes, donc c'est assez logique de continuer ainsi. Et là aussi, il y a besoin d'un moratoire, il y a besoin de mettre en lumière à travers des affaires iconiques comme Pegasus, avec des associations comme Amnesty, des affaires qui permettraient à tout un chacun de réaliser l'ampleur du problème et surtout le danger que ça fait peser. Parce que le danger est infiniment plus grand encore que sur Pegasus. Pegasus, on risque de décimer la démocratie. C'est grave. Mais si demain on a du commerce d'armes qui permettent de décimer des centrales nucléaires, on est sur un niveau de gravité bien plus élevé encore. Et on se dirige vers ce genre de situation.
Puisqu'on participe au podcaston avec 300 podcasts de toute la francophonie qui parlent de 300 associations ou ONG, un mot sur la participation de Amnesty International à Hack for Value, qui est un programme de bug bounty, en fait gratuit, qui est solidaire, destiné justement aux associations, aux ONG à but non lucratif, pour essayer de voir s'il y a des failles en fait, dans leur système. Des hackers viennent vérifier s'il y a des failles dans les systèmes de ces ONG, ces associations, qui peuvent les protéger en fait, derrière.
Alors, qui était un programme de collaboration entre Amnesty et Yogosha qui ont monté, enfin c'est une initiative que j'ai montée en 2016, lancée avec Communication Sans Frontières, qui est elle-même une ONG qui s'occupe grosso modo de la communication de l'ensemble des ONG, c'est une méta-ONG dans laquelle je suis très impliqué, et on a monté en 2016-2017 cette initiative Hack for Value, qui consistait à dire aux hackers, voilà, on va vous donner des cibles qui sont des ONG et vous allez nous trouver tous les moyens d'entrer, de pénétrer les systèmes, de les surveiller, de les saboter, de façon à ce qu'ensuite on puisse leur faire de jolis rapports et qu'elles puissent corriger les problèmes de façon à se protéger. Et ça a été fait grâce à Amnesty. Hein. C'est clairement Amnesty qui a été la locomotive là-dedans, qui est arrivée, qui a cautionné l'initiative avec sa marque. Ça a été un succès vraiment très sympathique, et puis une occasion de rencontre entre les communautés hackers, enfin la partie des communautés hackers qui évidemment soutient les valeurs d'Amnesty, et puis cette ONG qui connaissait déjà pour quasiment tous. Évidemment, ça s'est arrêté quand j'ai quitté Yogosha en 2018, mais pendant 2 ans, vraiment, ça a été une belle occasion de resserrer des liens qui étaient quand même existants, mais qui nécessitaient d'avoir une cause commune autour de cette campagne de bug bounty organisée par Amnesty.
À ton avis, Damien, quel est le nouveau combat d'Amnesty International? Un petit indice, Paris 2024.
un indice sur votre écran. Oui, effectivement, bien sûr, on l'a vu, on l'a d'ailleurs traité dans un épisode qui sortira prochainement pour les éclaireurs du numérique en collaboration avec France 24 et la RTBF sur la question de la surveillance de masse qui est en train de se mettre en place à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 à Paris, puisque vous le savez, il y a une loi qui est en train d'être passée à l'Assemblée nationale sur la question de l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique pour l'occasion des Jeux Olympiques 2024. Et bien entendu, Amnesty et bien sûr donc son laboratoire tech est en première ligne sur ces sujets-là, parce que typiquement, ça pourrait complètement être un laboratoire qui pourrait, nous faire dériver la société française vers des directions qu'on ne voudrait pas. Et donc typiquement, à l'occasion de cet événement-là, sous couvert de dire qu'il faut protéger, ce qui est logique quand même, de se dire qu'il faut protéger ou faire attention à tout ce qui pourrait être menace terroriste pour éviter qu'il y ait des dégâts humains, civils, on est en train de basculer dans une sursécurisation à outrance. Et la question, c'est quels sont les garde-fous de cela? Et pour l'instant, on n'en voit pas trop. Et effectivement, c'est le nouveau combat d'Amnesty.
Oui, avec son conseiller qui est sur la réglementation à l'intelligence artificielle, donc à Amnesty International, qui a déclaré cette décision qui légalise pour la première fois le recours à la surveillance assistée par intelligence artificielle en France et dans l'UE, risque d'instaurer de manière permanente une surveillance d'État dystopique en France et de permettre des violations à grande échelle des droits humains dans le reste du bloc. Voilà, c'est 2024, c'est la vidéosurveillance de masse assistée par intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place tranquillement et dont personne ou quasiment ne parle. On en a un podcast là-dessus qui arrivera dans les prochaines semaines. On te donne la conclusion, Fabrice, sur Amnesty International et peut-être même sur globalement le fait qu'il y a des ONG ou il peut y avoir des associations qui ont parfois des puissances de feu technologiques qu'on ignore. Ça peut arriver, ça.
Alors, la conclusion sur Amnesty, que vous dire? Je pense que c'est un exemple assez frappant d'une ONG qui a un impact. Pegasus, c'est celui dont on parle aujourd'hui, mais si on regarde l'histoire d'Amnesty, ils ont fait de très nombreux coups comme ça, le premier d'entre eux étant d'imposer ce rapport annuel que tout le monde attend, soit avec terreur, soit avec terreur, mais parce qu'on est du mauvais côté de la barrière. C'est une très très belle ONG, et c'est l'une des très rares ONG qui effectivement a su prendre la vague, non seulement du numérique, mais du cyber, c'est pas tout à fait la même chose. Et de repérer de façon intelligente, sans sombrer dans le ludisme, sans sombrer dans l'anti-progrès, sans sombrer dans les délires typiques qu'on entend en ce moment sur la consommation du numérique en matière de carbone, ils ont fait ça de façon très intelligente, très professionnelle, très scientifique, en s'ouvrant aux compétences du cyber, en les accueillant en leur sein, et en leur offrant une place qui est incomparable pour avoir vu sur place la position du grand gourou des technologies au sein d'Amnesty. C'est quelque chose d'infiniment plus respecté au sein de l'organisation que le DSI dans une organisation du CAC 40. Et ils ont réussi ce coup de maître à être en pointe sur les sujets les plus cyber du moment et à faire bouger les choses. Pegasus, c'est un momentum. Je suis très impliqué là-dedans parce que j'ai rencontré ce genre de saloperie il y a 10 ans. J'ai fondé Yogosha avec un type qui s'appelle Abder Zori, qui a été le premier hacker à détecter ce genre de saloperie destinée à des journalistes. Et en 10 ans, ils ont réussi à en faire un sujet mondial. C'est les seuls qui étaient en mesure de faire ça. Ça représente une vigilance très accrue de la part de tous les journalistes de la planète qui ont tous entendu parler de Pegasus sans la moindre exception. Et il fallait ce coup de massue pour que le monde entier, mais particulièrement les journalistes, prennent conscience que c'est un énorme problème et que c'est un problème qui les concerne. Pendant 10 ans, la plupart des journalistes, y compris les investigations, n'ont pas compris le souci. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit à Amnesty, on doit vraiment leur être reconnaissant pour ça.
Amnesty qui a publié récemment son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, pour ce qui concerne la France. Donc il note que les policiers français continuent de bénéficier d'une très large immunité, que les atteintes à la liberté d'association et d'expression se multiplient, que la France a violé les droits des personnes réfugiées ou migrantes, et qu'enfin la France continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui permettent gentiment de massacrer les populations au Yémen, sans parler hors de ce rapport-là, en fait, d'une condamnation de la répression des manifestations en France.
En particulier des armes cyber et ces fameuses 0D. Il y a un commerce du 0D avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui est particulièrement important, particulièrement intéressant, particulièrement dangereux, surtout à une époque où très clairement ce bloc qui est issu des accords d'Abraham est en train de faire scission avec le reste du monde occidental et de prendre son indépendance. Là-dessus, on est sur un volcan sur le point d'exploser.
Damien, ça nous change de faire un podcast où on dit du bien pendant 20 minutes d'un sujet. C'est ce qu'on vient de faire avec Amnesty International et on avait vraiment envie de le faire bien, ça.
Mais oui, bien sûr, et ça fait du bien aussi, effectivement, de dire et de montrer qu'il y a des gens qui font un bon travail et qui essaient de faire avancer les choses. Et alors justement, si vous avez envie d'en savoir plus, d'abord, vous pouvez tout simplement aller sur le site d'Amnesty. Il y a une partie autour de la tech, donc l'Amnesty Tech, qui est en fait la partie qui met en avant tous les travaux d'Amnesty autour de la tech. Il y a un compte Twitter alors, qui est très bien. Et sinon, vous pourrez aller voir leurs travaux. Leurs travaux sont hyper intéressants. Ils ont fait des articles récemment sur tout l'impact des réseaux sociaux, des médias sociaux sur les jeunes, sur les communautés LGBTQ+, notamment. Ils ont des grands domaines de travail. Il y a tout ce qui est business model des grandes entreprises, GAFAM, la surveillance des activistes, on vient d'en parler avec Pegasus, tout ce qui est technologie biométrique, on vient d'en parler avec Paris 2024, tout ce qui est droits digitaux, humains, notamment des enfants. Et tout ce qui est, on va dire, technologie et social welfare, donc tous ces éléments autour de l'apport du numérique au bien-être social. Bref, je trouve hyper intéressant, ces sujets-là sont vraiment hyper intéressants, vous pouvez les trouver sur le site d'Amnesty, tout est listé, tout est présenté. Et puis, comme on est dans le podcaston aujourd'hui, l'idée de tout ça, c'est de vous dire que si vous avez envie de les soutenir, eh bien vous pouvez le faire tout simplement en allant sur le site de podcaston, justement, parce que c'était l'idée de cet événement.
Podcaston.org.
Exactement, podcaston.org. Donc aujourd'hui, à la fin de ce podcast, on ne va pas faire de la pub pour nous, mais on va faire de la pub pour eux et pour Amnesty. En gros, vous allez sur podcaston.org, qui est l'endroit qui concentre toute cette initiative de 300 podcasts francophones. Vous avez juste à mentionner le podcast et l'association pour laquelle vous voulez donner, faire un don, donc là typiquement Amnesty, le montant, et puis vous validez, et puis voilà, vous payez, puis c'est fini. L'organisme qui est derrière le podcaston, qui est Altrui, se chargera de récolter les dons et de les distribuer aux différentes associations et ONG qui ont reçu des dons par l'entremise de ces 300 podcasts francophones. Voilà.
On ne vous demande jamais d'argent ici, dans les éclairs du numérique. On n'est pas des influenceurs. Enfin, pas ce type-là d'influenceurs. Par contre, on vous demande pour une fois de mettre de l'argent sur autre chose pour Amnesty International. C'était donc la participation des éclaireurs au podcaston. Merci Fabrice Epelboin.
À la semaine prochaine.
Merci d'avoir amené ce sujet même crucial. Merci Damien Douani.
À très vite.
Salut à tous.
Salut.
Les éclaireurs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douani et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr.